Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez, Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui a été enregistrée il y a quelques jours à ce mur en Aussois, dans la galerie de peinture de Yannick Perrin. Émission enregistrée dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Et je vous présente celle qui était l'invitée du Cercle des auteurs bourguignons et qui va nous accompagner dans Wagon Livre, Dominique Missica. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée.
Alors je remercie mon ami libraire Cyril Lefebvre de la librairie de La Poste parce que c'est lui qui organise ces rendez-vous et c'est un partage aussi avec les auditrices et auditeurs de Radion, Dominique Missica, pour une biographie parue chez De Noël consacrée à une écrivaine russe, juive, qui a connu grand succès dans les années 30. Elle s'appelle Irène Némirovski. Irène Némirovski, une vie inachevée. Je voudrais aussi, cher Dominique, vous les voyez devant nous, saluer et remercier le public qui nous accompagne pour cette émission enregistrée avec eux. Bonsoir. Je m'arrête sur Dominique Missica. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes historienne, vous êtes écrivaine. On va dire que vous aimez beaucoup l'histoire. Vous êtes historienne, surtout. Et puis, vous avez travaillé sur des figures de la politique française. On mentionnera Simone Veil. On mentionnera également Robert Badinter. Vous fûtes un temps animatrice sur France Culture. C'était mon rêve d'être animateur à France Culture. Vous êtes également documentariste. Vous avez produit des documentaires pour la chaîne parlementaire.
Absolument. Les combats méconnus de Simone Veil et les combats méconnus de Robert Badinter, pour montrer à quel point l'un et l'autre ont accompli bien plus de choses qu'on ne leur prête. C'est vrai que Simone Veil, on dit la loi sur l'avortement, bien sûr, c'est ce qu'elle a accompli et qui rend cette femme assez exceptionnelle. Mais elle a aussi mené d'autres combats pour lutter contre le sida, pour les assistantes maternelles, à créer la charte des patients hospitalisés, à supprimer les salles communes d'hôpitaux. Bref, elle a fait énormément de choses, tout comme Robert Badinter, à qui l'on doit évidemment l'abolition de la peine de mort, mais à qui on doit aussi l'humanisation des prisons, un décret pour combattre, pour rendre l'homosexualité non plus susceptible d'être condamnée, abolit la loi qui condamnait les homosexuels. Bref, ce sont deux personnalités effectivement qui m'ont fascinée, que j'ai rencontrées, que j'ai connues, et à qui j'ai voulu dédier ces biographies. Et puis j'en ai, alors je dirais que j'ai aussi, pour ajouter à mon crédit, je dirais, une exposition consacrée à Simone Veil au Chambon-sur-Lignon, et une autre exposition consacrée à Robert Badinter au Mont-Valérien l'année dernière. Voilà, plus une BD, voilà, c'est tout ce que j'ai fait.
Votre dernier essai à Pourtil, oui, c'est tout ce que vous avez fait. Effectivement, c'est un peu léger, cher Dominique. L'affaire Bernard Nathan, les années sombres du cinéma français chez De Noël. Et puis, nous mettons un coup de projecteur sur Irène Némirovski, une vie inachevée. Alors, effectivement, il faut rappeler que cette jeune femme a quitté la Russie tsariste en 1918 avec ses parents. Elle arrive à Paris. Elle est née dans une grande bourgeoisie, elle a vécu dans le luxe.
Absolument.
Elle n'a manqué de rien, la petite Irène.
Non, elle naît à Kiev et en effet dans une famille qui connaît l'aisance et qui surtout, et c'est ça qui va façonner au fond le destin de d'Irène Mirovski, qui se pique d'aimer la France.
Francophile et francophone.
Absolument, sa mère n'a de cesse que de recevoir des magazines de mode de Paris, de se meubler rue du Faubourg Saint-Antoine et surtout de passer 5 à 6 mois de l'année, de quitter les hivers rigoureux de la Russie, de l'Ukraine, pour venir sur la côte basque ou sur la côte d'Azur, comme tous ces Russes, ces familles impériales. Alors certes, ils ne font pas partie de la famille impériale, loin de là, mais ce sont des habitudes qui sont des habitudes luxueuses, oui, sans aucun doute.
Alors Irène Nemirovski est née le 11 février 1903 à Kiev. Mmh. Les parents, alors l'enfance de la petite Irène est marquée par des parents qui se chamaillent sans arrêt. Sa mère est infernale. On a l'impression d'ailleurs à vous lire que sa mère Fanny ne l'a jamais aimée. Non. Le père, lui, adore sa fille.
Oui, alors c'est vrai que derrière cette façade d'une enfance choyée, où elle est habillée extrêmement luxueusement comme une petite fille modèle de la comtesse de Ségur, oui, mais c'est une enfance solitaire parce que en effet, son père qui est un homme d'affaires parcourt le monde pour amasser des millions qu'il perd régulièrement au jeu. Mais il n'empêche qu'il voyage sans arrêt en France, en Angleterre, en Allemagne, dans toute la Russie pour ses affaires. Quant à sa mère, Fanny, qui est une très belle et grande femme, elle n'a qu'une seule préoccupation, ce sont ses amants. Donc cette gamine qui est là la dérange, elle la gêne, elle ne sait pas, elle n'y prête pas attention. Il y a des gouvernantes pour s'en occuper et par conséquent Irène trouvera refuge, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs souvent en herbe, eh bien dans les livres, dans la littérature française, puisque elle le dira et c'est un de ses points les plus sensibles, sa langue maternelle est le français, parce que sa mère, si détestable soit-elle, lui a fait ce cadeau de l'élever, de le faire élever par une gouvernante française qui va lui donner le goût de la littérature, le goût de l'écriture, le goût du français, alors que le russe est secondaire.
Donc pas d'embrassade, pas tellement de câlins dans l'enfance de Irène.
Non, c'est une enfant mal aimée. Peu aimé, mal aimé. Alors son père, comme vous le disiez, il a une fille unique. Certes, peut-être aurait-il espéré un héritier, mais cette fille unique, il la gâte quand même et il l'emmène, par exemple, à Monaco, au casino, mais il l'oublie dans le hall. Et elle l'écrira avec beaucoup de noirceur et de cynisme. J'étais comme une malle à la consigne. Voilà, c'est ça le souvenir de son enfance. Oui, son père lui offre une voiture, lui offre ses voyages et ses séjours à l'hôtel Negresco sur la Côte d'Azur. Mais au fond, elle ne trouvera jamais sa place.
Alors, elle a 14 ans lorsque éclate la révolution russe, février 17. Et la famille qui, finalement, appartient à cette classe des possédants, se sent menacée, comme beaucoup d'autres Russes. Mmh. Et c'est la fuite, c'est l'exil, oui. Fin 1918, début 1919.
Oui, c'est l'exil, c'est la fuite en traîneau. Alors ça, j'ai toujours rêvé d'aller en Finlande sur les traces d'Irène Nemirovski, mais mon éditeur ne m'a jamais offert le voyage pour imaginer comment de Saint-Pétersbourg, la Finlande, puis la Suède. Et puis pendant 4 mois, ils sont dans un petit village de Finlande, dans une sorte d'hôtel avec d'autres exilés. Ce sont des exilés qui partent avec de l'argent. Hein. Ils ne sont pas laissés.
C'est pas les pauvres migrants d'aujourd'hui.
Non. Mais il n'empêche quand même qu'elle est arrachée à sa ville, à sa maison, à ses livres. Et en juillet 19, alors que le père est déjà à Paris, ils vont pouvoir embarquer à Stockholm pour débarquer à Rouen. en juillet 1919, juste après le 14 juillet 19, qui est la grande cérémonie, le grand défilé de la victoire juillet 19. Je fais une petite parenthèse. C'est le premier article que rédige Joseph Kessel, dont j'ai raconté par ailleurs.
Lui aussi, donc.
Voilà. Mais c'est juillet 19, la France est en liesse et la famille Nimirovski arrive à Paris, va immédiatement s'installer dans les beaux quartiers.
Alors, ce n'est pas très exceptionnel, ces Russes qui ont fui la Russie tsariste, ces fameux Russes blancs qui viennent en France. On est habitué à Paris à les voir. Alors, certains aussi connaissent la déchéance sociale.
Ah ben, la plupart sont ruinés. Justement, Joseph Kessel a très bien décrit dans les cabarets de Cigane, les dames pipi qui étaient d'anciennes princesses, les chauffeurs de taxi, les Russes blancs exilés sont dans la misère, ils ont perdu la totalité de leur fortune et de leur rang. Ce qui n'est pas le cas de Léon Nimirovski, qui astucieusement a transféré ses fonds et installe sa famille dans le 16e, au Trocadéro, dans un hôtel particulier. Donc il y a cet arrachement, il y a cet exil, mais c'est un exil qui n'a rien à voir avec celui des Russes blancs
Oui, et puis pour la petite Irène, français était quasiment sa langue maternelle.
Elle est enchantée. Elle est au cœur de Paris. Paris, les années 20, c'est une ville en fête. C'est une ville qui... C'est le début des années folles. Donc elle arrive, elle est joyeuse comme tout. Et puis en plus, elle est plus ou moins livrée à elle-même puisque son père continue à se préoccuper de ses affaires et sa mère à s'habiller et à entretenir son amant et à demander sans cesse plus d'argent à son mari.
On va revenir sur finalement la découverte de la France par la petite Irène, donc qui a 14 ans quand elle arrive à Paris. Je rappelle que notre invité est Dominique Missika pour Irène Nimirovski, une vie inachevée, une émission que nous avons enregistrée il y a quelques jours à Semur en Aussois dans la galerie de peinture de Yannick Perrin, avec ce bel événement initié par notre libraire de Semur, Cyril Lefebvre, qui fait d'ailleurs un peu de bruit pour se distinguer là-bas au fond du public, que je salue. Nous marquons un premier intermède musical dans cette émission.
Ça va ?
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent, et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine, pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour avec notre invité Dominique Missika pour son essai Irène Némirovski, une vie inachevée. Je rappelle Irène Némirovski, née en 1903 à Kiev et qui meurt à l'âge de 39 ans dans le camp d'Auschwitz. On va bien sûr dérouler le parcours, mais aussi s'intéresser à l'œuvre littéraire d'Irène Némirovski. La famille... En exil, s'installe de manière très confortable à Paris. Le père d'Irène, qui est un homme d'affaires, un banquier, continue à avoir des affaires florissantes. La mère trouve peut-être des amants, mais cette fois-ci français. Elle est coquette, elle bénéficie du charme et de la beauté du Paris des années 20. La petite Irène va faire des études. Alors en plus, elle a quand même une liberté exceptionnelle. Elle a un temps, une vie un peu dissolue parce qu'elle a son propre appartement et elle s'amuse.
Oui,
elle profite.
Ça c'est absolument incompréhensible. Le père d'Irène Némirovski loue pour elle une sorte de garçonnière à deux pas rue Boissière, à deux pas du Trocadéro, là où ils habitent. Bon, elle a quand même un chaperon, elle a quand même une gouvernante qui est soi-disant là pour la surveiller. Enfin, elle bénéficie d'une liberté absolument totale. Probablement, mon analyse, c'est que le père est content de mettre fin aux disputes entre la mère et la fille et que de les séparer, c'est peut-être une bonne chose. Donc, Irène s'inscrit à la Sorbonne. Elle suit ses cours de manière...
dilettante, quoi.
Un peu en dilettante, parce que ce qu'elle aime, c'est aller au Touquet, au casino aussi, danser, apprendre le charleston, flirter, à tel point que... Et à un moment donné, où elle se rend compte qu'elle va rater ses examens, donc elle se ressaisit. Mais c'est vraiment une jeune fille qui s'amuse à Paris et qui, quand même, écrit... un peu secrètement, jusqu'au moment où elle va, alors là c'est aussi assez étonnant, elle va apporter des textes à une revue qui en principe réservait plutôt aux messieurs un peu coquine, un peu, alors humoristique, mais enfin un peu légère. Et ces textes qui sont alors très drôles et qui mettent en scène deux jeunes filles, l'une s'appelle Nonoche et sa copine sont sur la plage à Biarritz et elles draguent pour essayer de trouver des messieurs assez riches pour les entretenir. Donc c'est quand même assez olé olé. Et elle est publiée. La difficulté effectivement est d'aller toucher les droits d'auteur parce que la gouvernante ne comprend pas bien ce que Irène va faire de passage Choiseul au siège d'un journal. Donc elle la trompe un petit peu pour aller toucher ses premiers droits d'auteur.
Alors, c'est les années d'insouciance où Irène Némirovski, et tant mieux pour elle au regard de ce qui lui arrivera, connaît liberté. Il faut signaler qu'en décembre 1922, il y a un décret soviétique, puisque cette fois-ci, les soviets sont en place, hein, Lénine est au pouvoir, et puis ensuite arrivera Staline. Les Némirovski perdent leur nationalité russe. Donc, les voici apatrides.
Oui, mais au fond, c'est grâce aux... Ils ont le passeport Nansen.
Expliquer.
Oui, ce fameux passeport Nansen qui permet aux réfugiés d'avoir des papiers d'identité. C'est une protection, certes, qui va s'avérer bien fragile, mais à l'époque, c'est une protection. Donc, Irène Némirovski, elle est comme une jeune fille française de son époque. Elle s'amuse, elle fait ses études. Rien ne laisse présager de ce qui peut arriver. Et je dois dire que elle se marie quand même assez rapidement. Il faut dire que n'en faisant pas non plus une jeune fille totalement délurée. En 1926, elle épouse Michel Epstein, juif russe, banquier lui aussi. Un mariage, tout ce qu'il y a de plus cohérent, monogame, on dirait. La voilà installée confortablement avec son mari. Ils choisissent, alors ça m'a tout de suite amusée, ils choisissent de s'installer rive gauche. Donc, elle quitte le Trocadéro pour le quartier des Invalides, qui est à la limite du Faubourg Saint-Germain, un quartier tout à fait chic, près de l'église Saint-François-Xavier. Et la voilà installée confortablement. Son mari, elle mène un grand train de vie à ce moment-là.
Alors, lui, c'est le mari adorable et parfait pour elle.
Oui.
Et surtout, c'est que la famille du mari de Irène est une famille aimante, accueillante. On peut dire que quelque part, là, elle trouve une famille, ce qu'elle n'a jamais connu en tant qu'enfant unique.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu consacrer un chapitre à son mari, Michel Epstein, parce que quand on raconte les biographies des écrivains, il y a toujours la muse, l'égérie, c'est toujours une femme. Mais là, c'est l'inverse. Irène, est une femme de lettres. Qui a la chance d'avoir un mari qui l'accompagne dans sa création, qui est un homme tendre, une famille avec des frères et des sœurs qui adoptent tout de suite Irène Nimirovsky. Donc une vie comblée. Sincèrement, elle a, dans les années avant la naissance de sa fille en 1929, elle a une vie tout à fait enviable, heureuse. Elle est comblée, une jeune femme mariée, bien installée, qui vit confortablement.
1926, donc c'est l'année du mariage, mais c'est aussi l'année de la publication du premier roman d'Irène Nemirovsky, premier roman qui a pour titre Le Malentendu. Alors là aussi, elle a joué de ruse et d'une approche ouatée et très prudente avec le futur éditeur.
Oui, absolument. Alors, pour Le Malentendu, qui est l'histoire d'un adultère sur la plage d'Andaï, alors là, c'est clairement... c'est d'ailleurs assez étonnant parce que, d'emblée, elle choisit un genre littéraire dans lequel elle va exceller, qui est l'analyse psychologique. Et là, c'est un adultère qui se déroule sur la plage d'Andaï entre une femme mariée qui a un enfant. Et là, on voit très bien, on imagine très bien Irène petite sur la plage d'Andaï et qui va croiser le regard d'un bel homme. Et bon, voilà, je ne vais pas spoiler la suite. Mais c'est là où elle ruse, c'est quand elle va écrire son deuxième titre, qui est L'ennemi IE. Et là, c'est clairement c'est le portrait de sa mère. Et là, elle va choisir un pseudonyme tout de même. Là, c'est quand même audacieux d'oser signer de son propre nom. Donc, elle est tout à fait consciente, et c'est un de ses traits de caractère qui m'a toujours impressionnée, c'est qu'elle est extrêmement lucide et même hyper consciente de ce qu'elle fait. Elle sait que en signant ce livre, L'ennemi, qui est le portrait d'une mère acariâtre, violente, cruelle,
égoïste
elle se met à découvert, et donc elle va demander à son éditeur effectivement de signer d'un pseudonyme masculin, ce qui est aussi un indice pour vraiment brouiller les pistes. Et malheureusement, on ne sait pas si Fanny Nimirovsky, la mère, l'a lu. Ce qui reste quand même mystère.
Alors, le succès va venir assez rapidement autour de cette romancière russe, parce qu'elle n'est pas considérée comme française. C'est une étrangère en France.
Oui.
Et elle est juive aussi.
Mmh.
Et le fait qu'elle soit juive, ça plaît. Ça interpelle. Et puis, la France a quand même un vieux fond d'antisémitisme très ancien.
Oui, c'est-à-dire qu'en 1929, elle est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, et elle a fini un manuscrit qui sera David Golder. Ce manuscrit, elle l'avait proposé à Fayard, qui était son premier éditeur. Fayard, comme tout éditeur qui se respecte, lui dit « Ouh là là, c'est trop long pour une nouvelle, ça va pas du tout, etc. Il faudrait me supprimer 50 pages. » C'est mal connaître Irène Limirovski, qui a un sacré tempérament, et qui dit « Non, non, je ne couperai pas », et qui envoie, alors c'est une histoire vraiment de l'édition comme on les imagine, c'est-à-dire qu'elle envoie son manuscrit aux éditions Grasset, bon, aujourd'hui, plus célèbre pour d'autres choses, mais enfin, elle l'envoie aux éditions Grasset, et elle signe, elle donne comme adresse une boîte postale, et elle met M. Epstein. C'est tout. Et elle envoie son manuscrit. Elle accouche de sa première fille, Denise.
Denise Catherine France.
Absolument, pour bien marquer à quel point l'amour de la France est chevillé au corps. Et trois semaines après son accouchement, elle reçoit un message urgent, contacter les éditions Grasset. Et elle va venir, et là, stupéfaction de Bernard Grasset lui-même, qui ne s'attendait pas à voir arriver une toute jeune femme, toute petite, menue, et qui lui dit, ben voilà, je ne suis pas venue avant parce que j'ai accouché d'une petite fille, donc je n'ai pas pu me venir. Et Bernard Grasset, qui a le sens du lancement et du marketing, puisqu'il vient de lancer Radigué avec Fracas, voit une opportunité extraordinaire dans ce texte extrêmement puissant de David Golder, qui décrit le monde des affaires à travers la figure d'un brasseur, d'un spéculateur juif, David Golder, marié à une femme, Gloria, qui n'a de cesse de lui réclamer de l'argent, toute ressemblance avec personne précédemment citée, voilà. Et il va lancer David Golder comme vraiment comme en usant de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing, campagne de publicité, et il demande même à Irène Limirovski de se rajeunir en disant vraiment un jeune auteur. Elle a 26 ans, elle en a plus que 23, et il compare David Golder au père Goriot. Alors comme elle est maligne, Irène Limirovski, elle avoue qu'elle a jamais lu le père Goriot, mais ça fait rien. Elle endosse cette comparaison, et elle va devenir, comme Françoise Sagan, célèbre du jour au lendemain. Mais quelque chose d'absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'elle est une vedette. Elle est dans tous les journaux, dans tous les magazines, photographiée chez elle. C'est très nouveau. On rend visite aux écrivains à leur domicile. Donc, il va y avoir des reportages où elle va poser avec son bébé, son chat, son bébé. Et tout le monde est surpris, et les critiques littéraires les premiers, parce que, et ça c'est vraiment la misogynie de l'époque, on s'étonne qu'une jeune femme décrivent le monde de la finance, le monde de la banque, avec autant de précision, d'acuité, pour la féliciter, la complimenter, certains vont dire « elle a une écriture virile ».
Oui.
Ça, quand même, compliment sublime, suprême, une écriture. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, les femmes de lettres publient plutôt des romances en dehors de Colette, publie plutôt des romans sentimentaux, des histoires d'amour, de la poésie, mais absolument pas de ce type de livre. Donc c'est une surprise, c'est une curiosité dans le monde littéraire. Cette jeune femme qui décrit, alors elle décrit avec certains clichés carrément antisémites.
Oui.
Alors là aussi, comme vous l'avez dit, donc à la fois on est fasciné. Et elle devient célèbre du jour au lendemain, couverte de louanges et d'éloges. Et puis, il y a quand même quelques voix, surtout du côté de la communauté juive, qui sont un peu effarées par l'usage des stéréotypes.
Oui, puisque des clichés antisémites.
Des clichés antisémites, c'est-à-dire, effectivement, le personnage est libidineux. Enfin, c'est vraiment les clichés les pires. Et elle va se défendre. Et c'est là où je la trouve absolument géniale.
Mais on a parlé de haine de soi.
Oui, mais moi, je ne crois pas. Je crois tout simplement... D'abord, elle a commencé par dire ce qui est vrai. J'ai décrit les Juifs tels que je les ai vus. Ce qui est vrai, puisque c'est son monde à la fois en Russie et à Paris. Son père continue à fréquenter des hommes d'affaires qui spéculent le pétrole, les allumettes, le zinc et autres. Donc, elle dit c'est tel que je les ai vus. Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, en fait, je pense qu'elle règle ses comptes avec ses parents. Parce qu'au fond, ses parents ont été corrompus par l'argent. Et si l'argent n'avait pas été aussi cupide, aussi sa mère aussi vaniteuse et assoiffée d'argent pour des questions d'esthétique ou pour entretenir des amants, si son père n'avait pas passé sa vie en voyage pour multiplier les millions, eh bien peut-être qu'il l'aurait aimé, peut-être qu'il l'aurait entouré. Et donc je pense que c'est un règlement de compte, non pas contre les Juifs, mais contre cette effectivement ces hommes ou ces femmes qui pourraient être juifs ou pas, mais qui préfèrent l'argent à leur famille, tout alors, simplement.
Immense succès littéraire, donc 1929, ouais. David Golder, il y a le bal ensuite, et surtout, adaptation cinématographique, puisque Julien Duvivier, en 1930, adapte David Golder. Ouais. D'autres écrivains français auraient aimé connaître cela. Bon, Simenon, à l'époque, oui. C'est un échec total. Idem pour Paul Morand. Bon,
absolument, ce sont deux jaloux.
Et donc, il y a ce succès d'Irène Némirovski, qui publie aussi dans les revues. Il y a une boulimie d'écriture.
C'est-à-dire que elle est le bal, parce que c'est quand même son... je pense qu'avec David Golder, ça fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature, puisque je ne sais pas si vous avez déjà lu le bal. C'est une histoire fabuleuse, c'est un synopsis de film. Ça pourrait être absolument tourné aujourd'hui. C'est encore une fois un règlement de compte avec sa mère, puisque c'est l'histoire d'un couple de parvenus qui décide d'organiser une soirée la plus somptueuse possible pour en jeter auprès de leurs amis, avec orchestre, des buffets, le caviar, le champagne, etc. Et évidemment, la maîtresse de maison interdit à sa fille, qu'elle appelle Antoinette, c'est-à-dire Irène, de venir à cette soirée. C'est une rivale, donc pas question de permettre à sa fille de participer à cette soirée. En revanche, elle donne à la gouvernante et à Irène le soin d'aller poster les invitations. Et que fait la jeune fille? Elle prend les invitations et hop, dans la scène, et ne viendra à cette soirée qu'une seule vieille cousine que Irène aurait pris soin de prévenir, hargneuse et assez véhémente. Donc c'est vrai que c'est un synopsis de film. Et Irène Némirovski devient du jour au lendemain, alors je dirais avec un afro-anglicisme, bankable, au fond. C'est-à-dire que tous ces textes sont accueillis avec succès. Et ça va l'entraîner à écrire de plus en plus, tout en gardant cette manière d'être, à savoir de revendiquer, elle avec son mari, elle passe son temps à écrire à ses éditeurs pour être payée, pour être tenue au courant des traductions.
Enfin, ils mènent grand train de vie aussi, les Epstein.
Absolument.
À Paris,
oui.
Ils
oui.
vivent à la Russe.
À la Russe, avec une bande d'amis, sans se rendre compte qu'elle ne fait pas partie, au fond, du monde des lettres. C'est toute l'ambiguïté qui est là, c'est que à la fois elle est célébrée comme une jeune romancière douée et extraordinairement talentueuse, mais d'un autre côté, elle est quand même, comme vous l'avez dit, elle est juive, elle est russe, et puis je le dis, elle a cette audace de ne pas changer de nom. Alors effectivement, se marier à Epstein et Némirovski, ça revient au même, ça je suis d'accord. En revanche, Elsa Triolet, Nathalie Sarraute ou Sonia Delaunay ont pris, elles sont trois juives, femmes juives russes, qui ont pris le nom de leur mari et qui donc n'apparaissent pas comme étant juive. Et pour Irène Némirovski, non seulement elle apparaît comme juive, comme russe, donc Et ça, pour elle, elle se défend, mais alors, becs et ongles, pour ne pas être assimilée à un auteur russe. Elle dit, mais ma langue, je suis française. Ce sera le drame de sa vie, c'est d'être reconnue comme une écrivain française. Elle n'est pas traduite, contrairement à ce que certains laissent entendre, et elle écrit naturellement en français.
Alors, le couple Epstein avait demandé la nationalité française, ce qui leur est refusé. Oui. En revanche, les deux filles d'Irène, nées sur le sol de France, sont françaises.
Hein. Absolument.
On va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle que c'est Dominique Misica qui nous accompagne pour dérouler le parcours de cette Irène Némirovski, Une vie inachevée. Nous revenons d'ici quelques minutes et je rappelle que cette émission a été enregistrée il y a quelques jours à ce mur en Aussois, à la galerie de peinture de Yannick Perrin, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons et nous étions en public.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Irène Némirovski, Une vie inachevée, c'est le titre de l'essai de Dominique Misica qui est aujourd'hui devant notre micro et toujours en public dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Revenons au couple Epstein, belle et grande vie à Paris, dans une France qui connaît des tensions politiques. Hein, c'est la montée des ligues, montée de la xénophobie, montée de l'antisémitisme. On se rappelle le 6 février 1934, hein, où il y a eu des morts, hein, et où on voulait effectivement... C'est une sorte de prise, un coup d'État un peu manqué, le 6 février 1934. 1936, le Front populaire. Irène continue d'écrire. Il faut écrire, et écrire devient vital, parce qu'il faut gagner de l'argent. Ben, pour assurer son train de vie, il y a les impôts, il y a l'appartement, et puis cette vie à la Russe coûte cher. Donc Irène écrit beaucoup. Elle est aussi... comme Marcel Proust, de santé fragile, souvent terrassée par des crises d'asthme.
Oui.
Et donc, elle a besoin aussi de grand air et d'air pur et sain.
Oui.
Et la voilà qui va partir en Saône-et-Loire, dans le Morvan, dans une petite localité qui s'appelle Issy-l'Évêque. Et là, Dominique, je vous laisse un petit peu nous parler de la rencontre d'Irène Nemirovski avec le Morvan. Terre d'accueil, d'ailleurs, le Morvan.
Absolument, mais Irène Nemirovski, en effet, est asthmatique. Elle est épuisée par l'écriture. Elle est tourmentée, elle est angoissée aussi, puisqu'elle voit bien son mari, comme elle, lise le russe, l'allemand, l'anglais. Donc les nouvelles sont absolument terrifiantes. Et elle va aller, en effet, à Issy-l'Évêque. Pourquoi Issy-l'Évêque ? Eh bien, tout simplement parce que la gouvernante de ses filles a sa mère, qui est nourrice, à Issy-l'Évêque, et va accueillir Irène et ses deux filles. Entre-temps, Elisabeth est née en 1937 et Irène a du mal à se remettre de son accouchement. Et Irène va découvrir le repos, le calme d'Issy-l'Évêque. Elle descend à l'hôtel des voyageurs, elle aime cet endroit, elle s'y promène, elle s'y repose, et c'est pour ça que tout naturellement, en 1940, elle y reviendra.
Alors, montée des périls, bien sûr, nazisme, fascisme, il y a aussi la guerre d'Espagne, ne l'oublions pas, un pays voisin de la France. Alors, Irène Nemirovski n'est pas frottée de politique.
Non.
Elle n'est pas vraiment... elle n'est pas anti-bolchevique, elle n'est pas anarchiste. Peut-être est-elle un petit peu anarchiste.
Oui, je crois qu'alors elle est très loin de la chose politique. Il n'y a pas un seul de ses manuscrits, une seule de ses lettres qui semble la relier à la vie politique de la France. Je crois qu'elle est... Alors peut-être que... Comme le milieu qu'elle décrit dans David Golder, je crois qu'elle est cosmopolite. Elle est ouverte à toutes les cultures, à toutes les littératures. Elle traduit James Caen, elle introduit Vicky Baum en France, elle lit Virginia Woolf. Elle aime Catherine Mansfield, c'est sans doute son auteur préféré. Donc, au fond, elle est dans son monde de l'écriture et le reste ne importe peu. Sauf qu'en effet, l'étau se resserre. Le manque d'argent, puisque sa mère a réussi à lui confisquer son héritage à la mort de son père en 1932, et que le krach de Wall Street, il faut pas oublier que arrive en France en 31-32, et que tous les placements, la plupart des placements d'emprunt russe ou autres, ont ruiné bien des gens. Donc elle s'épuise en effet à publier, et elle-même sera consciente, elle le dira lors d'une critique un peu plus aigre qu'elle reçoit pour un de ses livres, qui est Le Pion de l'Échiquier. Elle dira « Je gâche mon talent, mais que faire ? Je suis obligée d'écrire. » Elle est devenue quasiment chef de famille et fait tourner la maison, en effet.
Alors, elle ne perçoit peut-être pas les périls qui pourraient venir jusqu'en France. 1938, c'est l'Anschluss, c'est... La nuit de cristal. Et puis après arrive la déclaration de guerre. Alors, elle a quand même, mais ça, c'est pas pour des raisons idéologiques ou pour se protéger, elle a cherché à renoncer au judaïsme. Elle a entrepris, je crois que c'est en 1938, elle entreprend des démarches pour
se convertir.
Pour se convertir et pour aller au baptême.
Oui, alors... Elle est consciente tout de même que sa situation de juive apatride est une situation dangereuse, et surtout elle pense à ses filles. Et donc elle va entreprendre de se convertir et de faire convertir à la fois son mari et ses filles. Bon, c'est sûr que c'est pas par révélation, elle n'a pas tout d'un coup renié son judaïsme pour embrasser la religion catholique. D'ailleurs, elle dit elle-même au prêtre qui accepte de la convertir qu'elle est une piètre recrue. Simplement, elle a le sentiment, une fois de plus, d'appartenir à la France, et que si elle est catholique, elle sera encore plus française, puisque En effet, bizarrement, alors que son dossier aurait dû être obtenir la nationalité française, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on lui refuse ? Elle a toutes les garanties, c'est une femme de lettres connue, elle a des lettres de recommandation de Roland Dorgelès, d'Henri de Régnier, académicien français, etc. Et c'est vrai qu'elle se sent, elle commence à sentir que le danger se rapproche, et cette conversion va soi-disant lui permettre de se protéger, ce qui serait effectivement se révéler faux.
Alors la guerre éclate, on ne revient pas sur les étapes que nous connaissons, hein. La France, l'armée française, c'est le plus grand désastre hein, d'ailleurs de l'armée française, 1940. Irène va rejoindre, parce que les petites filles ont été d'abord placées en sécurité, toujours en Saône-et-Loire à Issy-l'Évêque. Irène Némirovski les rejoint en mai ou juin 1940.
Oui, juste avant la débâcle.
Donc du 16 au 17 juin 1940, la Wehrmacht entre dans la ville d'Autun. Le maréchal Pétain donc ensuite signe l'armistice, c'est le 17 juin 1940. Vous vous rappelez, la France coupée en deux, la ligne de démarcation, hein, la Saône-et-Loire est coupée d'ailleurs en deux. Et alors là, c'est une vie nouvelle, parce que pour Irène, elle revit l'exil, la fuite et la guerre.
Oui, c'est étrange pour elle de se trouver dans ce village où, au fond, elle est seule. Seule avec son mari et ses deux petites filles. Ils sont accueillis avec hospitalité par les gens du village. Ils vont s'installer à l'hôtel des voyageurs, mais c'est quand même difficile d'imaginer d'être coupé de la vie parisienne, du tout Paris des lettres, quand on est une romancière, et d'autant plus que elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et il y a une lettre absolument pathétique qu'elle écrit au maréchal Pétain au moment de la publication du statut des Juifs, où elle s'étonne que elle, une femme de lettres qui a tant donné à la France, se retrouve victime du statut des Juifs.
Dominique, je lis là. Voici ce qu'écrit Irène Némirovski au maréchal Pétain. « Je ne puis croire, monsieur le maréchal, que l'on ne fasse aucune distinction entre les indésirables et les étrangers honorables qui, s'ils ont reçu de la France une hospitalité royale, ont conscience d'avoir fait tous leurs efforts pour la mériter. » Lettre qui restera sans réponse.
Oui, ça...
Alors, très vite, il y a les décrets, il y a la politique française, hein, parce que certains Français sont allés au-devant même des exigences allemandes. Il y a un moment où les Juifs n'ont plus le droit d'avoir un compte en banque, et puis il y a le moment où les journaux, la presse française, n'a pas le droit de publier des auteurs étrangers. Ça, c'est ce que découvre Irène dans un entrefilet de journal. Et là, c'est un début quand même de catastrophe, parce que le monde des lettres va l'oublier, les maisons d'édition un petit peu. Et puis alors, il y a le fait que son mari, Michel Epstein, sa banque le radie. Il est viré comme un malpropre.
En deux mois, ils sont réduits à la misère. C'est-à-dire que la banque licencie Michel Epstein. Et les portes des éditeurs qui, hier, étaient grandes ouvertes, se ferment les unes après les autres, sous prétexte que, en effet, la loi Otto Abetz a interdit aux Juifs de publier et de toucher leurs droits d'auteur. Irène Némirovski écrit une quantité de lettres, elle supplie ses éditeurs en leur écrivant, en leur disant qu'elle en a besoin pour vivre, pour faire vivre sa famille, acceptant, ce qui pour un auteur est assez douloureux, d'écrire sous pseudonyme, de ne même pas signer ce qu'elle va écrire pour gagner quelque argent. Et toutes les portes des éditeurs vont se fermer, sauf celle des éditions Albin Michel, qu'il faut vraiment saluer, parce que c'est son éditeur qui va continuer à lui envoyer de l'argent alors qu'elle ne publie plus et que les livres sont interdits de vente. C'est absolument incroyable et admirable de la part des éditions Albin Michel.
Mais ce qui est incroyable, il y a cette liste Otto, donc du prénom de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz. La liste Otto, alors dessus, il y a Kessel, bien sûr, il est dessus, hein, c'est le juif qui... André Mauroy également, mais Irène Némirovski n'est pas répertoriée
non,
sur la
première,
liste Otto, étonnamment.
Alors, il y a une explication, c'est qu'elle est considérée comme russe. Je pense tout simplement qu'il y a une ambiguïté, c'est que, parce que dans la deuxième liste Otto, malheureusement, elle figure. Mais dans ce laps de temps, en effet, elle essaye de caser, entre guillemets, ses articles, ce qu'elle ne réussira pas. Et ce sont des lettres désespérées, des lettres d'appel vraiment... qui sont poignantes. Je dois dire que parce qu'ils sont bloqués là, ici, l'évêque. Ils n'ont pas d'argent. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler. Donc, comment partir d'ici, l'évêque? Pas de voiture, pas d'Ausweis. Et puis, Irène Némirovski sent très bien que si elle était restée à Paris, peut-être qu'elle aurait une chance d'obtenir tout de même des facilités. Et elle va écrire à ce fameux Paul Morand et à Hélène Morand pour leur demander au moins de lui obtenir un Ausweis pour aller voir un ophtalmo parce qu'elle a des soucis avec ses yeux. Pas de réponse non plus de Paul et d'Hélène Morand qui hier la recevaient
dans leur salon puisque la femme de Paul Morand était une princesse, hein, Hélène Stulzo. Bien sûr, 1940. Alors, 41, novembre 41, le couple Epstein loue une jolie maison qui se trouve toujours à Issy-l'Évêque. Je crois qu'il y a une plaque qui a été apposée sur cette maison. Place du Monument aux Morts qui s'appelle aujourd'hui Place Irène Némirovski, donc à Issy-l'Évêque en Saône-et-Loire. Et puis on va avancer très vite. Malheureusement, conditions très difficiles pour le couple. Et puis aussi les deux petites filles.
Absolument.
13 juillet 1942, à la porte de la maison donc à Issy-l'Évêque, deux gendarmes français viennent arrêter Irène Némirovski.
Alors, il faut être tout de suite carré. Il n'y a pas eu de dénonciation à Issy-l'Évêque. Si elle a été arrêtée, c'est par un concours de circonstances extrêmement tragiques. Le camp de Pithiviers, les camps de Pithiviers de Beaune-la-Rolande, qui sont à côté d'Orléans, doivent être vidés parce qu'on prépare la rafle du Valdiv du 16 juillet 42. Il reste 750 juifs dans ce camp de Pithiviers de Beaune-la-Rolande. Il faut 1000 juifs pour former un convoi. Ordre est donné à la Gestapo d'Orléans de trouver 250 juifs. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche des juifs apatrides entre 18 et 45 ans. Michel Epstein a 46 ans, mais elle est exactement dans les critères. Et donc, on vient la chercher.
Mais on l'arrête seule.
Seul,
Michel,
mais
lui, sera,
mais
le
oui,
mari
parce
sera
que,
arrêté
parce
en
que,
octobre 42.
Bien sûr, parce que là, on est passé après la rafle du Valdiv. L'accélération et les convois vont être de plus en plus nombreux. Donc après, on va l'arrêter. Mais ce 13 juillet 42, elle ne peut pas imaginer qu'elle va être arrêtée. C'est impossible, puisque jusque-là, les seuls juifs raflés à Paris ont été des hommes. On est trois jours avant la rafle du Valdiv, où seront arrêtés des enfants et des femmes et des vieillards. Mais là, le 13 juillet 42, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et c'est comme ça qu'elle sera arrêtée. Michel Epstein, fou de douleur, va essayer à nouveau de joindre Paul Morand, Benoît Méchain, enfin, tous ceux qu'il connaît à Paris. Bien sûr, c'est trop tard et elle est déportée à Auschwitz où elle meurt quasiment en arrivant.
D'ailleurs, vous le précisez, il y avait eu la rafle des notables où le mari de Colette, Goudquet, avait été arrêté. Mais là, Colette avait réussi à le faire libérer en juillet 42. En fait, c'est absolument impossible de libérer Irène Némirovski, qui arrive donc à Auschwitz le 19 juillet 1942. 42, où elle disparaît à jamais. Michel Epstein disparaît à jamais. On n'a pas trop le temps de parler des deux fillettes, mais c'est aussi...
C'est simplement deux enfants cachés. Elles vont être sauvées par la gouvernante que Irène Némirovski avait fait venir à Issy-l'Évêque. Elles vont vivre cachées
dans le Bordelais
jusqu'en 45. en portant toujours, en transportant toujours cette fameuse valise avec le manuscrit de suite française qui sera enfin découvert en 2004.
Et qui obtiendra de manière posthume le prix Renaudot. Parcours, oui, vie inachevée d'Irène Némirovski, oui. Qui meurt à 39 ans à Auschwitz. Toute seule et laissant un mari et deux petites filles qui se retrouvent toutes seules.
Absolument. Et puis qui laisse une œuvre inachevée, puisque d'ailleurs il y aura quelques textes qui vont paraître après sa disparition, que Albin Michel va prendre soin de publier, mais elle va tomber dans l'oubli parce qu'au fond, elle a disparu de la scène littéraire et que le tout Paris des lettres est assez cruel.
Merci Dominique Missika. Je rappelle donc votre essai Irène Némirovski, Une vie inachevée. C'est aux éditions de Noël. Je crois que nous nous joignons, hein, Dominique, ensemble. Nous remercions Yannick Perrin de nous accueillir dans sa galerie de peinture à Semur-en-Auxois et puis l'ami libraire Cyril Lefebvre, si entreprenant et énergique. Et notre public que nous saluons. Et je salue nos auditrices et auditeurs, ainsi que vous, cher Dominique. Au revoir et à samedi prochain.
Merci beaucoup.